Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Et avec elle, on va évoquer les titres à paraître à la une de cette nouvelle édition ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence avec un petit peu de tourisme. C'est le dossier de La Marseillaise sur les nouveaux défis du tourisme en Occitanie.
Oui, tout à fait. Alors, on est en pleine saison estivale. Elle a commencé déjà, toujours à la fin du mois de juin. Il y a déjà beaucoup de touristes dans notre belle région. Et donc, c'est un secteur économique qui doit faire face notamment à la crise climatique et à la régulation des flux touristiques. Hein. Et nous expliquons dans ce dossier quels sont les défis à relever. Alors, je vais juste donner deux chiffres. Hein. Il y a 220 millions de nuitées qui ont été donc comptées pour l'année 2022. Ça montre l'importance du secteur touristique en Occitanie.
Oui.
Et il y a 125 000 emplois salariés qui sont liés dans différentes filières à ce secteur touristique.
D'accord. Deuxième titre à lire aussi dans La Marseillaise, les étudiants s'indignent, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls, car ils dénoncent l'augmentation de 3,5% des charges locatives dans les cités universitaires.
Oui, oui. Alors nous revenons sur cette annonce qui a été faite en fait au mi-temps du mois de juin, hein,
oui.
C'était à peu près le 13 juin. Les CROUS qui gèrent donc les cités universitaires ont reçu l'ordre, entre guillemets, d'augmenter les charges locatives dans les cités universitaires. Alors les étudiants, notamment, on a donné la parole aux étudiants du syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM, ils témoignent de leur colère.
Oui.
Et bon, le CROUS estime de son côté que c'est une augmentation, je cite, qui est limitée et encadrée.
Mmh.
Il n'empêche qu'il y a eu le gel des loyers en cité universitaire,
oui.
Mais que cette augmentation des charges, même si elle peut paraître minime, hein, puisqu'on est à peu près entre 1 et 2 euros par mois, elle plombe quand même le budget des étudiants, dont la plupart consacrent entre 60 et 70% de leurs revenus, qui peuvent être la bourse ou le travail aussi, puisque 1 sur 2 travaille, au logement. Donc c'est énorme.
À lire aussi dans La Marseillaise, le train de l'Aubrac entre Béziers et Neussargues qui était menacé de fermeture. Mais là, il y a eu mobilisation de la population, des élus locaux et des syndicats. Et ils ont réussi à arracher son maintien.
Oui, oui, alors c'est vraiment une bonne nouvelle et pour les usagers et pour la planète. Hein. Donc, en fait, il y avait des difficultés de travaux pour rénover cette ligne.
Mmh.
Et donc, elle devait être, d'ici la fin de l'année, arrêtée. Et ça pose des questions évidemment importantes hein, d'accès déjà à la mobilité,
oui.
À la mobilité propre hein, pour ne pas reporter le trafic sur la route. Hein. Il y a aussi une dimension économique puisque c'est par ce train aussi que les usines ArcelorMittal, qu'elles soient dans les Bouches-du-Rhône ou en Occitanie, diffusent leur matériel.
Mmh.
Donc il y avait aussi beaucoup d'emplois industriels en jeu,
d'accord.
Pas simplement les usagers du quotidien. Et donc c'est à peu près 350 emplois hein, qui dépendent aussi de cette ligne ferrée, qui est une petite ligne, mais qui est complètement décisive. Hein, d'abord pour le transport scolaire, pour l'activité industrielle et pour les habitants de ces territoires qui sont encore enclavés et que le train permet de désenclaver. Donc ça a été une bataille, c'est pour ça qu'on revient évidemment dans La Marseillaise sur cette bataille gagnée qui est une première étape hein, parce qu'il va falloir rester mobilisé sur ces questions-là.
Et pour finir, un petit peu de culture, Françoise, avec les Folies d'eau qui reviennent à Montpellier du 30 juin au 8 juillet. Vous pouvez écouter sur Divergence FM pas mal de podcasts et d'interviews organisateurs. Un festival qui propose cette année de nous embarquer pour un voyage en Amérique latine avec tango, salsa, rumba et samba. Rien que ça.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est le principe des Folies d'eau qui existe depuis maintenant 16 ans. Mmh. C'est l'association Folie Lyrique donc, qui l'organise. Et il y a vraiment... le but de cette association et de ce festival hein, donc qui commence vendredi jusqu'au 8 juillet, c'est de démocratiser la musique lyrique en la faisant sortir des lieux institutionnels. Et chaque année, il y a un thème. Et là, il y a ce thème des musiques latino-américaines. C'est intéressant parce que ce que nous explique le directeur artistique des Folies d'eau, Jérôme Pillement, c'est que ces compositeurs d'Amérique du Sud, ils n'ont pas fait la différence au 19e, au 20e siècle, entre musique dite savante et musique dite populaire ou de variété. Donc on a des grands musiciens qui ont fait de la musique et des chansons populaires. Et donc c'est tout ça qu'on va pouvoir découvrir avec plusieurs soirées. Des soirées, les concerts commencent vers 21h30, mais dès 19h, le public est accueilli, notamment pour des initiations. Et c'est le côté vraiment, on va dire, éducation populaire des Folies d'eau que nous tenions aussi à mettre en avant dans cet article.
Allez Françoise, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres, chers auditeurs, et on en parle tout de suite avec vous, Françoise Vernard.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Allez, chère Françoise, on commence avec le dossier à lire dans la Marseillaise sur les nouveaux défis du tourisme en Occitanie.
Oui, alors on sait que l'Occitanie, c'est une région très touristique. Sur le podium, c'est la première destination des Français.
D'accord.
Ce qu'on appelle le tourisme domestique, hein, quand on part en vacances, en séjour, dans son propre pays. C'est ça la définition.
D'accord.
Donc c'est la première destination des Français. C'est l'Occitanie. Bon, il y a 13 départements qui sont très beaux. Il y a à la fois de la montagne, du littoral. Donc c'est vraiment une richesse très, très variée. Sur le plan des paysages, du patrimoine. Et c'est à peu près aussi 125 000 emplois salariés pérennes dans les différentes filières du tourisme. Alors, il y a un véritable défi qui se pose, pas simplement à l'Occitanie, on va dire sur l'ensemble du territoire français, puisque la France est le premier pays touristique au monde. Voilà. Donc, l'Occitanie est quatrième sur le podium national accueillir des touristes qui viennent de l'étranger. Et là, il y a un tournant qui doit être pris, qui a commencé à être pris, c'est ce qu'on explique dans ce dossier, c'est qu'il va falloir faire face notamment à la crise climatique. Voilà, puisque de l'activité, ça génère des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, être une région touristique, ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de monde. Et donc, il faut réguler ces flux touristiques. Et donc, nous expliquons dans ce dossier tous ces défis qui sont à relever, en pointant notamment des décisions qui ont déjà été prises au niveau local. Il y a des communes, par exemple, si on va du côté de Saint-Guilhem-le-Désert,
Vallée de l'Hérault.
Voilà, une magnifique commune de l'Hérault. Elle est classée parmi les plus beaux villages de France.
C'est magnifique.
Voilà, il faut se tenir aux branches parce qu'elle compte 250 habitants à l'année. Et le nombre de visiteurs chaque année oscille entre 400 000 et 600 000. Donc, évidemment, le maire de la commune, Robert Figuel, dit que même pour les visiteurs, ce n'est plus une visite agréable.
Oui, c'est vrai.
On a l'impression d'être un peu dans un Disneyland.
On a l'impression d'être au Mont-Saint-Michel, un peu.
Voilà, voilà. C'est vrai que c'est un bon exemple aussi. Quand on parle maintenant cette notion de surtourisme qui commence à rentrer un peu dans le vocabulaire. Mais ce n'est pas une fatalité. La municipalité, elle a pris vraiment les devants. afin d'éviter donc ne serait-ce aussi que pour les visiteurs, pour qu'ils puissent bien apprécier le lieu. Il y a donc un grand parking qui a été mis en place, oui, de 600 places. La, oui, moitié s'est réservée aux résidents. Mmh. On a aussi une géolocalisation sur Internet et sur les réseaux sociaux qui peuvent causer aussi une surfréquentation. Mmh. Donc il y a ce qu'on appelle des opérations de démarketing, oui, pour moins parler des lieux qui peuvent être promus sur les réseaux sociaux, mmh, et attirer énormément de monde sans qu'il y ait forcément une régulation je veux dire qui soit prévue pour accueillir tout, oui, toutes ces personnes. Par exemple, dans le Gard, il y a Saint-Laurent-le-Mier, il y a la très belle cascade de la Vis,
oui,
c'est un lieu vraiment paradisiaque, hein, mais elle est victime de son succès. Donc la commune a décidé de cesser par exemple toute communication autour du site pour en limiter la fréquentation.
Oui.
On a pris aussi l'exemple du pont du Gard. Alors là, le pont du Gard,
ouais,
c'est
encore pire,
un
presque
des monuments les plus visités dans notre région. Mais le directeur du pont du Gard que nous avons eu et qui s'exprime dans la Marseillaise, Sébastien Arnaud, dit qu'ils subissent pas la surfréquentation car il y a des installations qui sont capables de gérer les visiteurs.
D'accord.
Il y a aussi des stratégies pour que les personnes ne viennent pas tout en même temps.
Mmh.
C'est-à-dire que des propositions d'événements qui sont étendues dans la journée, dans la soirée. Et donc il y a des mesures à prendre. Il y a des réflexions aussi. Par exemple, si on prend la cité balnéaire, la Grande Motte.
Oui.
La Grande Motte aussi, c'est emblématique, hein, avec ces pyramides qui sont d'ailleurs classées. Ça fait partie du patrimoine du XXe siècle. Hein,
mmh.
La Grande Motte communique beaucoup sur passer un été à la Grande Motte sans voiture.
Mmh.
Donc dès le départ, c'est un projet. Il y a un demi-siècle de ça qui avait été aussi pensé pour le piéton et pour le cycliste.
Mmh.
Donc il y a des choses qui reviennent aussi, on va dire, au goût du jour par nécessité. On a aussi les actions dans les parcs naturels régionaux.
Oui.
L'Occitanie en compte 8. Hein. Et donc la Fédération des parcs naturels régionaux ont relancé cette année leur campagne de sensibilisation quand on arrive en parc. Donc pour avoir la bonne attitude, donc il y a tout un travail de sensibilisation,
mmh,
parce que le but, bien évidemment, c'est de renforcer, de pérenniser cette filière touristique, mais il y a aussi tenir compte des changements de pratique de la,
oui,
part des personnes qui font des séjours touristiques, hein.
Oui.
C'est-à-dire que depuis la pandémie qui a été catastrophique, évidemment, il y a eu une année très très compliquée pour le secteur touristique, mais c'est reparti vraiment très très fort dès 2021. En 2022, il y avait 220 millions de nuitées qui ont été répertoriées, donc comptées en Occitanie.
Oui.
Donc il ne s'agit pas de fermer la porte de la région aux personnes qui veulent y venir, mais de penser un peu différemment des choses, surtout que les personnes ont de plus en plus envie de séjours apaisés,
oui,
de séjours durables, et donc c'est des choses qui doivent être aussi travaillées au niveau des collectivités et aussi de l'État. Et on se rend compte en travaillant ce dossier que les collectivités locales, notamment les régions, les comités régionaux, le comité régional du tourisme, ont une vraie réflexion là-dessus et sont souvent plus en avance que l'État lui-même,
mmh,
qui a sorti un plan un peu en catimini le 18 juin au soir, hein, puisque ça a été communiqué assez tardivement, avec des mesures qui sont pour l'instant, on va les détailler, qui sont pour l'instant pas forcément à la hauteur du défi à relever.
D'accord. Affaire à suivre, donc.
Complètement.
Allez, on passe à l'indignation des étudiants, Françoise. Une indignation suite à l'augmentation de 3,5% des charges locatives dans les cités universitaires. Un euro, c'est un euro pour un étudiant.
Tout à fait, oui, oui, il faut savoir que les étudiants sont dans des situations très compliquées. Donc on est allé interroger notamment Fabien Bon, qui est du syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM, qu'on connaît bien aussi à Divergence. Hein. Oui. Donc c'est un syndicat qui est majoritaire à l'université, à la grande université Paul-Valéry de Montpellier. Donc ils nous expliquent qu'ils ont appris le 13 juin au soir que le ministère de l'enseignement supérieur avait donné l'ordre au rectorat de transmettre au CROUS, donc au CROUS qui gère les cités universitaires, une nouvelle consigne, c'est-à-dire augmenter les charges locatives de 3,5%. Elle a été mise à l'ordre du jour et votée le 14 juin au conseil d'administration du CROUS de Montpellier.
Oui.
Évidemment, tous les élus étudiants présents ont voté contre, nous raconte Fabien Bon.
Et pourquoi cette augmentation, Françoise, elle est liée à quoi?
Elle est liée au fait que, c'est une augmentation des charges. On imagine bien qu'elle est liée au fait qu'il y a eu des augmentations, notamment du prix de l'énergie.
Oui, des salaires.
Voilà. Mais le problème, c'est que ce que nous explique Fabien Bon, c'est que le gouvernement, donc, d'un côté, il y a quelques mois, il a gelé les salaires. Il a gelé les loyers, non, il n'a pas gelé les salaires. C'est un lapsus révélateur peut-être. Donc il a gelé les loyers dans les cités universitaires, mais aujourd'hui il oblige les CROUS à augmenter les charges. Il faut savoir que pour un étudiant, le logement représente entre 60 et 75% de son budget. Et nous rappelle Fabien Bon, on en a déjà parlé sur l'antenne de Divergence et dans la Marseillaise, c'est que les étudiants, ils font la queue actuellement encore pour les distributions alimentaires qui sont organisées depuis janvier 2021, notamment par le SCUM. Il y a de plus en plus de monde, nous raconte Fabien Bon, et ils sont obligés de refuser des gens car il n'y a pas assez de nourriture à donner. Il dit, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans un océan de précarité, et donc cette hausse des charges locatives ne passe pas. Donc nous avons aussi interrogé le CROUS, qui nous explique que cette hausse des charges locatives, elle va être limitée et encadrée, j'ouvre les guillemets, puisqu'en fait elle va entraîner seulement une augmentation de 0,4% des loyers. Bon, ils admettent quand même que ça reste une petite augmentation, c'est entre 1,7 et 3 euros par mois maximum pour les plus gros loyers, nous disent-ils. Alors, dans le détail, il faut savoir qu'une chambre de 10 mètres carrés en CTU, ça coûte 247 euros quand même.
Quand même, oui.
Eh oui, 10 mètres carrés en CTU, c'est 247 euros. Et là,
si on le reporte, Françoise, au locatif immobilier normal, en fait, c'est cher.
Eh bien oui, un studio de 20 mètres carrés, c'est 309 euros.
D'accord.
Là, ça va passer de 247 à 248,7 euros et de 309 à 311,31 euros. Ça, ce sont les chiffres qu'ils nous ont fournis, le CROUS. Ils admettent quand même que ce n'est pas rien, mais ça reste mesuré. Et ils expliquent que, évidemment, il y a eu l'explosion, comme je le disais dans mon propos, du coût des énergies fossiles de 19% entre 2019 et 2022. Et ils disent aussi qu'ils ne font pas porter aux étudiants l'explosion de ce coût, puisque 83% de l'augmentation reste à la charge du CROUS. Bon, il n'empêche que pour les étudiants, ce n'est pas suffisant, y compris les bourses qui vont augmenter très peu, à peu près de 37 euros par mois. Pour le SCUB, c'est une aumône qui ne va même pas couvrir le montant de l'inflation.
Oui.
Donc voilà. Donc il nous semblait important de mettre en exergue encore les difficultés des étudiants qui, en plus, là on c'est pas dans l'article, doivent aussi batailler pour pouvoir s'inscrire ou se réinscrire en licence, en master, où là il y a encore une sélection et à ce propos, le SCUM à Montpellier fait une campagne pour accompagner les étudiants qui ne se retrouvent pas seuls face à ces difficultés, pour avoir tout simplement le droit d'étudier.
Oui, tout ça ne va pas dans le bon sens, si on peut dire. Allez, on passe au train de l'Aubrac entre Béziers et Neussargues qui était menacé de fermeture. Mais grâce à la mobilisation, c'est une bonne nouvelle pour les usagers et la planète. Il n'y aura pas de fermeture immédiate.
Non. Alors, il y avait pas assez de financement pour des travaux que ce train de l'Aubrac, donc qui fait donc c'est la ligne Béziers dans l'Hérault jusqu'à Neussargues, était menacé carrément d'arrêt, quoi. Alors, nous avons évidemment relaté cette première victoire, on va dire, de la population, des élus et des syndicats de cheminots. Par exemple, il y a Jackie Tello. Alors, Jackie Tello, c'est un monsieur qui préside le comité pluraliste de défense de la ligne Béziers-Neussargues. Oui. Évidemment, il est très content, hein, mais il a fallu des rassemblements, notamment en Lozère, à Saint-Chély-d'Apcher et à Saint-Flour, dans le Cantal. Ils se sont mobilisés les 12, les 20 juin. Il y a une autre manifestation qui est prévue à Séverac, dans l'Aveyron, le 8 juillet, puisque le combat continue. Il nous explique, Jackie Tello, que faute de moyens financiers, la ligne était menacée. La région Occitanie a aussi pesé. D'accord. On a Jean-Luc Gibelin, qui est vice-président en charge des transports, qui est un élu communiste, hein, qui nous explique qu'ils ont eu donc cette information par le ministère des Transports, qui a demandé à SNCF Réseau, qui s'occupe des travaux, de consulter des entreprises pour faire ces fameux travaux. En conséquence, il n'y aurait pas de suspension de la circulation.
D'accord.
C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous explique dans cet article. Donc, ces travaux de modernisation et de remplacement des rails, c'est quand même pas rien, entre Saint-Chély-d'Apcher et Neussargues, seront normalement effectués dans le courant de l'année 2024.
D'accord.
Les défenseurs de cette ligne, ils sont pas à leur première bataille. Hein.
Mm-hmm.
Ça fait près de 30 ans qu'il y a une mobilisation pour la défense de cette ligne qui est donc menacée depuis 3 décennies. Hein.
D'accord.
Jackie Tello nous dit rien n'est jamais perdu ou joué d'avance, il faut toujours se bagarrer et c'est une bataille permanente. Et c'est vraiment une première étape. Hein. Donc, concrètement, pour les voyageurs, ils pourront continuer à emprunter ce train.
Oui.
Il y a aussi les élèves, puisque c'est une ligne qui assure du transport scolaire.
Mmh.
Évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour les usagers. C'est
Et
une
oui.
très bonne nouvelle aussi pour le climat.
Oui.
Comme nous dit Jean-Luc Gibelin, le train, il est indispensable partout. Il est vraiment, il est très intéressant quand il est capable d'amener beaucoup de personnes sur des lieux urbains, dans les villes, hein, mais c'est aussi important dans la ruralité, parce que ça permet d'assurer une continuité de transport, là où la géographie est quand même plus compliquée que la route. Hein. Et donc, il a cette belle formule. Le train, c'est un outil de vie.
Oui.
Et c'est un outil de vie, total. C'est-à-dire même pas simplement... Les gens se déplacent pour quoi ? Pour travailler, pour étudier, pour le loisir. Et puis, il y a les entreprises qui utilisent aussi le train sous forme de... En faisant du fret.
Oui.
Il y a la desserte de voyageurs. C'est aussi pour une entreprise comme l'acierie ArcelorMittal de Saint-Chély-d'Apcher un vrai soulagement. Parce que sans cette route, sans cette ligne et sans le rail, les produits qui sont fabriqués par l'acierie devraient passer par la route. Et donc, il y aurait un surcoût énorme pour l'entreprise qui pouvait mettre en péril sa survie. Et il faut savoir qu'il y a 350 emplois industriel direct et indirect à Saint-Chély qui était vraiment en jeu.
D'accord.
Donc il y a aussi la question dans cet article de la mise en concurrence des trains.
Et, oui.
Évidemment ce collectif et les élus sont complètement contre cette dérégulation du service public ferroviaire, hein, en disant que c'est un enjeu politique majeur. Et c'est ça qui fera aussi l'objet de ce rassemblement à Séverac dans l'Aveyron le 8 juillet,
oui.
car ce combat continue, quoi.
Malheureusement, là, ça se joue au niveau de l'Europe, là.
Oui, mais parce que le problème, c'est que, comme nous explique l'élu, le conseiller régional Jean-Luc Dussubelin, qui s'occupe des transports et qui connaît parfaitement ce sujet, pourquoi la région Occitanie est contre l'ouverture à la concurrence, notamment pour la gestion des TER, oui. Parce que demain, n'importe quelle autre entreprise lucrative, elle va laisser tomber cette ligne dont
et
on
oui.
parle, là,
hein, sera pas rentable.
Entre Béziers et Neussard, pour aller s'occuper des lignes autour de Montpellier, de Toulouse, qui sont les plus lucratives en termes de recettes. C'est ce qui se passe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y a une ouverture à la concurrence, mais uniquement sur les lignes les plus rentables. Mmh. Donc demain, il n'y aura jamais une entreprise qui veut faire de l'argent, qui va aller desservir, en termes de services publics, des lieux, des communes rurales où il y a besoin de trains. Et c'est un enjeu non seulement, c'est un enjeu social, c'est un enjeu de société, et c'est un enjeu aussi pour lutter efficacement contre la crise climatique.
Absolument. Allez Françoise, on finit avec un peu de culture et les Folies d'eau qui reviennent à Montpellier du 30 juin au 8 juillet. Un festival vraiment que l'on vous conseille, chers auditeurs. Il va se passer quoi sur cette nouvelle édition, Françoise ?
Alors, cette nouvelle édition des Folies d'eau, elle va être axée cette année sur l'Amérique latine.
Oui.
Donc, c'est le continent sud-américain que le festival a donc choisi. Donc, on met le cap sur les Folies latinas. Alors, ce que nous explique Jérôme Pilement, qui est le directeur artistique des Folies d'eau, il est aussi directeur d'Opéra Junior à Montpellier, hein, puisqu'il travaille beaucoup sur l'accès, rendre accessible la grande musique ou l'opéra à des publics qui disent en gros que c'est pas pour eux.
Oui.
Or, quand on ouvre, et c'est le cas des Folies d'eau, d'être positionné sur un lieu qui n'est pas institutionnel et qui permet donc de faire tomber des barrières sociales et d'avoir accès donc à une musique, à la musique et au spectacle.
Oui, et puis dans un cadre fantastique au Domaine d'eau de Montpellier.
Exactement, c'est magnifique. Donc ça commence vendredi. Alors ce que nous explique Jérôme Pillement, c'est que ce qui est intéressant avec les compositeurs d'Amérique du Sud, c'est que ils ont jamais mis de barrière entre ce qu'on appelle la musique dite savante et la musique de variété. Mmh. Donc il y a des compositeurs qui ont écrit des chansons pour pouvoir continuer leurs études et pouvoir voyager.
Oui.
Et donc on a des musiques populaires de très grande qualité qui sont proposées pendant ce festival. Donc il y a 4 soirées.
Oui.
Donc la première, c'est le 30 juin, c'est le tango. Avec une création originale, il y a le grand plaisir d'écouter le baryton Armando Noguera.
Oui.
Après, il y aura le 1er juillet l'ambiance cubaine avec le groupe Compay Segundo, c'est le fondé par le fils du leader charismatique de Buena Vista Social Club.
Oui.
Donc ça va être une grande soirée là aussi, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Et il y aura des shows symphoniques le 7 et le 8 juillet avec l'Orchestre National de Montpellier et le Chœur de l'Opéra de Montpellier, dirigé par Jérôme Pillement.
Mmh.
Ils vont interpréter en version symphonique des titres du patrimoine musical sud-américain.
Oui.
On va passer de Cuba à l'Argentine, en passant par le Mexique, la Colombie, le Brésil. On donne tout le détail de cette programmation dans la Marseillaise de ce vendredi. Et il faut aussi noter qu'avant chacune de ces soirées, avant chaque spectacle qui débute vers 21h30,
oui,
il y a des démonstrations, des initiations aux danses, notamment le tango, la salsa, à partir de 19h sous la pinède.
D'accord. Et puis je vous rappelle, chers auditeurs, que vous avez toute une série de podcasts, notamment l'interview de Jérôme Pillement, de Monsieur Noguera, sur le www.divergence-fm.org.
On est complètement raccord.
Et oui, Françoise. En tout cas, chère Françoise, c'était pas la dernière, mais en tout cas la saison se finit ce vendredi. Mais on se retrouve quand même la semaine prochaine dans Ici l'ombre pour parler des titres à paraître à la une de la Nouvelle Marseillaise, évidemment.
Très très volontiers. On aura un cahier d'été à partir du 7 juillet. On pourra en parler.
D'accord. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, Françoise.
À la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.